Bienvenue à Nouvelle Vie chez vous. Quelle joie de vivre ces moments avec vous, de pouvoir vous accompagner, de pouvoir vous apporter la parole de Dieu. Bienvenue à vous, bienvenue à tout le monde de Nouvelle Vie, Longueuil, La Prairie, Drummondville, à tous ceux qui nous suivent par dizaines de milliers au Québec et aussi partout dans la francophonie. Nous avons enregistré ce message avant le 25 mars pour votre bénédiction. On espère qu'il va vous faire du bien. Nous avons complètement cessé tous nos services et activités non essentielles à Nouvelle Vie depuis. Tout le monde est en télétravail de la maison. Nous sommes en mode maintenant d'aller, de pouvoir continuer à vous communiquer, mais partout de nos maisons directement. Mon salon, ma cuisine à la maison est en train de devenir un studio pour pouvoir continuer à vous communiquer la parole de Dieu. Nous sommes heureux de vous partager un message aujourd'hui, alors que nous continuons à traverser cette pandémie ensemble. Mon thème aujourd'hui va être 4 vérités essentielles pour traverser la crise du COVID-19. 4 vérités essentielles. On parle beaucoup depuis quelques semaines de services essentiels. L'organisme que nous soutenons, Action Nouvelle Vie, sa banque alimentaire et tous ses services communautaires qui maintenant desserrent plusieurs milliers de familles avec des paniers de nourriture à chaque semaine, a été désigné, a été choisi comme un service essentiel. Ici, la plus grande banque alimentaire sur la rive sud de Montréal. Il y a des services qui sont essentiels et il y a des vérités qui sont essentielles. Il y a une déclaration, un passage de la parole de Dieu où Jésus dit « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité va vous rendre libre. » On ne parle pas seulement d'une vérité, une vérité pour le salut, une vérité au début de notre vie chrétienne, mais à travers tout ce que nous traversons en ce moment. Il y a des vérités essentielles, comme il y a des services essentiels, il y a des vérités essentielles qui peuvent libérer nos cœurs alors qu'on continue à marcher à travers cette pandémie, à la vivre, à la subir, à la traverser ensemble. Il y a des vérités qui vont libérer nos cœurs. Vous connaîtrez la vérité va vous rendre libre. Je crois qu'il y a des vérités spirituelles essentielles qui peuvent libérer, rendre nos cœurs libres de la peur, de la panique, de la confusion, du stress, de la solitude, de l'insomnie, de la préoccupation maladive pour demain, qu'est-ce qui va arriver demain. Des vérités pour vous aider à faire face. Quelques vérités pour nous aider ensemble à faire face à ce virus. Et lorsqu'on regarde à différents textes de la parole de Dieu, surtout lorsqu'on regarde Jésus dans les évangiles, il y a un cycle spirituel qui est essentiel à comprendre, à saisir et à nous emparer, à posséder. Dans les 4 évangiles, vous allez avoir des séquences littéralement comme des hommes, des femmes qui viennent pour suivre Jésus, découvrent la vie abondante qu'il a pour eux. Et dans les 4 évangiles, on voit par exemple une séquence où il y a la célèbre multiplication des pains, de connaître Jésus à une multiplication et directement de la multiplication dans une tempête. Et de l'autre côté de la tempête, une saison d'encore plus grande multiplication. Et si vous comprenez ça, c'est un cycle dans l'expérience humaine, dans l'expérience chrétienne également, qu'on vit des saisons de... Peut-être que vous viviez depuis le début de cette année 2020, l'économie canadienne, l'économie nord-américaine était dans une saison de multiplication, mais là, on entre dans la multiplication dans une tempête. Ce qu'il faut saisir, c'est que de l'autre côté de chaque tempête, lorsqu'on marche avec Dieu, il y a de plus grandes multiplications. Et ce cycle-là, ce principe spirituel-là, on le trouve lorsqu'on suit Jésus dans les évangiles, mais on le trouve aussi après la résurrection de Jésus, alors que les disciples dans les actes des apôtres, c'est les 30 premières années de la vie des premiers croyants, des premiers chrétiens qui marchent avec le Seigneur. Et on voit le même cycle dans les premiers 26 chapitres. On va regarder au chapitre 27 et 28, les deux derniers chapitres, aujourd'hui ensemble. Mais dans les 26 premiers chapitres, on voit ce cycle-là encore et encore, et peut-être d'une façon encore plus près de nous, plus près de notre réalité. Parce que comme nous, ceux qui marchaient dans les actes des apôtres, qui ont suivi le Seigneur, ont cherché à le servir, à l'honorer, à mettre leur confiance en lui, comme nous, avaient cette réalité que c'est après la résurrection. Nous savons, comme eux, nous savons qu'il est immuable, il est le Dieu de l'impossible, mais il est invisible. On ne marche pas comme les disciples marchaient avec lui en le voyant physiquement. Nous avons ses promesses sans sa présence physique. Nous avons la vérité, mais nous n'entendons pas sa voix rassurante qui comme de façon audible, comme les disciples le faisaient. Nous avons ses enseignements, mais soyons honnêtes, il y a des éclipses. Il y a des éclipses, il y a des moments, et on en vit en ce moment avec toutes les craintes, tout ce qui se passe autour de nous. Est-ce qu'il y a une éclipse de compréhension de ce qui se passe? Nous avons sa parole, nous avons ses promesses, mais il y a des pandémies à lesquelles on fait face. Nous avons ses instructions, mais il y a des injustices. Et aujourd'hui, on va regarder un texte où l'apôtre Paul, et l'introduction pourrait s'intituler de l'apôtre Paul à la COVID-19. Parce qu'il y a 2000 ans, Paul, à la fin des Actes des Apôtres, va être mis contre son gré dans un bateau. Il va être mis dans un bateau prisonnier où il est poussé littéralement vers une tempête qu'il n'a jamais désirée, qu'il n'a jamais choisie. C'est un contexte à lequel on peut s'identifier parce que c'est un contexte d'injustice. Dans les Actes, à partir du chapitre 26, au verset 31-32, il y a un roi, le roi a dit, « Cet homme n'a rien fait qui mérite d'être sur son navire dans la tempête, d'avoir cette sentence. Cet homme ne devrait pas se trouver sur ce navire. » Nous n'avons rien fait. C'est un sentiment qu'on ressent d'injustice. Nous n'avons rien fait de mal et cette pandémie vient tout changer. Vient tout bouleverser. Paul est embarqué de force sur un navire qui navigue dans une tempête, comme vous et moi et comme les nations du monde aujourd'hui en 2020. C'est un contexte d'opposition. Le chapitre 27 et le verset 4, il est dans le navire, il y a une tempête féroce qui prend place parce que les vents leur étaient contraires. Des vents de face qui épuisent. Comme dans un marathon. Plus jeune, j'ai couru un marathon, c'était une journée où vers la fin, la deuxième partie de la course, il y avait un vent de face. Et croyez-moi, lorsque tu entres dans les derniers 15-20 kilomètres avec un vent de face, il y a une dynamique de fatigue. Et en ce moment, nous vivons tous cette fatigue. C'est une fatigue qui est mentale. Il y a une opposition continuellement avec cette pandémie, une fatigue qui est psychologique, fatigue pour les familles, fatigue pour les parents, une fatigue dans le confinement. Il y a un sentiment d'impatience. Chapitre 27 et le verset 7 des Actes des Apôtres, et ils étaient « Plus nous naviguâmes, mais nous avançâmes lentement. » Il y a de l'impatience. On avançait lentement et non sans difficulté. Et nous le ressentons après ces semaines, après ces mois. C'est long. On ressent cette fatigue. Il y a une impatience. Il y a plein de gens qui... Il y a un cri. Les enfants disent, combien de temps encore? Combien de temps avant de retourner à l'école? Combien de temps avant de pouvoir aller jouer avec mes amis, avant de pouvoir aller voir grand-papa, grand-maman? De l'apôtre Paul à la COVID-19, embarqué de force dans un navire en pleine tempête, il y a un contexte de danger. Le texte nous dit, au verset 9, c'est un temps qui était un danger, chapitre acte 27, 9. Un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse. Et nous savons que nous prenons toutes les précautions. Nous savons que la très grande majorité des gens qui vont contacter le virus vont être soignés, vont être guéris. C'est un infime pourcentage. Quand vous lisez le texte, vous voyez que Paul les avait avertis. Il avait averti de ne pas aller. Il avait averti de ce qu'ils pouvaient et devaient faire pour éviter cette tempête. Ils ne l'ont pas écouté. Et plus tard, et ça, c'est très, très humain, mais l'apôtre Paul, plus tard, lorsque le bateau va faire naufrage, leur dira, si vous m'aviez seulement écouté. Et nous vivons tous, jusqu'à un certain point, nous vivons tous une certaine frustration face à des gens qui semblent indifférents, à des gens qui semblent ne pas écouter, à des gens qui propagent parce qu'ils ne suivent pas. Moi, j'étais éberlué de voir encore il y a quelques semaines, après tous les avertissements, après tous les appels, de voir le spring break, de voir des milliers sur les plages de la Floride. Il y a un jeune homme qui est devenu viral. Je ne pense pas que c'est une façon glorieuse de devenir viral. Mais il est devenu viral parce qu'il était là après que toutes les interdictions avaient été faites. Il était là au spring break, pas mal en état d'ébriété. Puis il a dit, « If I get the coronavirus, I get the coronavirus. » Si je l'attrape, je l'attrape. Une espèce d'insouciance ridicule parce qu'il ne se met pas en danger seulement lui-même, mais tous les autres. Et Paul a vécu ça, cette frustration-là. Non seulement je n'ai rien fait, mais je souffre à cause de mauvais comportement à cause de ce que d'autres ont fait. Et il y a un contexte très humain de désespoir. Lorsqu'on lit le chapitre 27 et les versets 13 à 17 sur le bateau, qui s'en va vers un naufrage, il y a des phrases qui sont là à laquelle on peut tellement, tellement s'identifier. Un léger vent devint un vent impétueux qui s'est déchaîné. On se souvient, il y a à peine quelques semaines ou mois, lorsqu'on pensait à la COVID-19, on entendait parler, on pensait que c'était quelques cas, mais c'est un léger vent qui est devenu un vent impétueux qui se déchaîne. Ils se croyaient, il y a un verset littéralement dans la Bible qui dit, ils se croyaient maîtres de leur destinée, mais ils furent emportés, perdant tout contrôle. Dans les Actes des Apôtres, il y a 2000 ans et aujourd'hui, nous qui pensions tout tenir, on pensait tenir notre futur, notre calendrier, notre agenda, notre emploi, notre économie, on pensait tout tenir, on s'aperçoit à quel point on tient bien peu dans nos mains. Et ils se mirent à dériver, ils se laissèrent emporter. Nous avions perdu tout espoir à certains moments, on va le lire dans un instant dans le texte. Et je veux vous encourager, je veux que ce message puisse vous aider à ne pas vous laisser dériver. Pas vous laisser dériver vers le désespoir, pas vous laisser dériver vers une espèce de fatalisme ou de colère ou de mauvaise décision ou de panique ou de quoi que ce soit qui pourrait vous nuire et nuire aux gens autour de vous. Et c'est là qu'on retrouve dans ce récit des actes où il y a quatre principes pratiques, quatre dynamiques spirituelles qui ensemble peuvent changer comment vous allez vivre cette crise. Quatre vérités pour faire face au virus. Quatre vérités qui transforment la tempête qu'on vit actuellement en témoignage. Et la première vérité, c'est, je l'exprime de cette façon, c'est que la révélation, quelle que soit la tempête, il y a 2000 ans aujourd'hui, à l'époque avec Paul, jusqu'à nous aujourd'hui dans cette pandémie, la révélation est plus importante que les raisons. On pourrait presque dire de cette façon, la révélation est plus importante que les pourquoi. Et lorsqu'on lit les Actes des Apôtres au chapitre 27, les versets 18 à 27, on va commencer en lisant la première partie où on voit ensemble le lendemain, comme la tempête n'arrêtait pas de secouer le bateau avec violence. On est tous dans le même bateau. On l'a délesté d'une partie de sa cargaison. Le troisième jour, les matelots ont jeté de leurs propres mains tous les agrès du bateau à la mer. Pendant plusieurs jours, on ne voyait ni le soleil, ni les étoiles. On se sent comme ça. On se sent dans une tempête qui nous secoue avec violence qui semble ne jamais finir. Ils prennent et on voit qu'ils ont pris toutes sortes de mesures qu'il fallait prendre, toutes sortes de mesures humaines, les mains humaines qui prennent toutes sortes de mesures. Et depuis des semaines et des mois maintenant, nous, avec la voix que nous avons, avec l'impact ou l'influence que nous avons sur les dizaines de milliers de personnes qui suivent maintenant tout ce que nous produisons, nous vous appelons à faire tout ce qui doit être fait, à respecter toutes les mesures, qu'elles soient sanitaires, qu'elles soient sécuritaires. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire et c'est important et nécessaire de le faire. J'étais aussi intéressé de voir qu'ils ont délesté des choses. Il y a des poids qui ont dû être abandonnés. Il y a des choses qui ont dû être délestées face à cette tempête et nous aussi. On a dû laisser aller certains de nos plans, nos projets, certainement certaines libertés, nos agendas. Il y en a qui regardent ce message en ce moment, je comprends. Vous avez été délesté sans le vouloir. C'est hors de votre contrôle, mais de certaines économies, de certains investissements. Il y en a qui ont vu à la bourse des investissements de vie, des fonds de pension. Il y a toutes sortes de choses qui sont secouées de votre emploi, de votre sécurité d'emploi. On a été délesté. Et pendant que plusieurs jours, le texte dit, pendant plusieurs jours, on ne voyait plus la lumière. C'est comme si tu ne vois pas la lumière au bout du tunnel. Je sais qu'on peut se sentir comme ça en ce moment, après ces semaines et ces mois, face à cette pandémie. Mais lorsqu'on continue à lire dans le texte, nous voyons que la tempête continuait de faire rage, oui, et nous finissions par perdre tout espoir d'en sortir sains et saufs. Mais alors, Paul, debout au milieu d'eux, on est tous au milieu de ça. On est tous dans le même bateau. Leur dit, « Maintenant, je vous invite à reprendre courage. En effet, cette nuit, un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sers s'est présenté devant moi et il m'a dit, « Paul, ne crains rien. Il faut que tu... ou n'aie pas peur. Il faut que tu comparaisses devant l'empereur et Dieu t'accorde la vie sauve pour tous les compagnons du voyage. Courage donc, mes amis. J'ai confiance en Dieu que tout se passera comme il me l'a dit. » L'apôtre Paul a cette révélation. L'apôtre Paul, au milieu de la tempête, ils ont pris toutes leurs mesures, mais Paul, au milieu d'eux, va dire, il y a un ange de Dieu qui m'a parlé. Le mot ange, c'est messager. Il y a un messager de Dieu qui a parlé à mon esprit, le Dieu à qui j'appartiens. Et cette révélation-là, tu as besoin de t'en emparer aujourd'hui. Si tu connais le Seigneur, tu marches avec lui, tu appartiens à Dieu. Il est ta défense, il est ton refuge, il est celui à qui tu appartiens. J'appartiens à Dieu. Rien ne me ravira de sa main. À qui j'appartiens est plus important que ce que j'affronte, que ce qui m'attaque. J'appartiens à Dieu. Ce message, cette révélation est plus importante que les raisons pour lesquelles je le traverse. Plus importante que les pourquoi. Cette promesse est plus importante que les pourquoi. Pourquoi je vis ça? Pourquoi Dieu? Pourquoi? Il y a toute cette dimension où le ciel parle encore aujourd'hui et te dit, n'aie pas peur. Il y a plusieurs théologiens qui ont traversé la Bible du premier chapitre de la Genèse, premier verset jusqu'à la fin, et qui ont découvert ou qui ont compilé qu'il y avait 365 fois « n'aie pas peur » ou « ne crains rien ». À 365 endroits différents, il y a un « n'aie pas peur » dans la Bible. Et « n'aie pas peur » comme si c'était Dieu qui te le disait, pour chaque pandémie, chaque journée, chaque jour de l'année, 365 jours. Il y a même des débats, parce que les chrétiens, parfois, se font des débats sur des choses vraiment qui sont de bien moindre importance. Mais il y a ce débat entre les théologiens, à savoir, est-ce que c'est vraiment 365? Est-ce que c'est vraiment, parce qu'il y a des nuances dans le texte hébreu, dans le texte grec, est-ce que c'est 360? Est-ce que c'est? Laissez-moi vous dire, si Dieu l'avait dit une seule fois, c'est suffisant. Parce que ce qu'il dit s'accomplit, parce que c'est l'essence de qui il est. Il ne change pas. Et tu as besoin de réaliser, d'entrer dans cette dimension où la première vérité essentielle dans toute tempête, mais certainement dans celle-ci, c'est que la révélation que je vais aller chercher en Dieu est plus importante que les raisons pour lesquelles ça m'arrive. Que Dieu a un plan, Dieu a une destination pour toi. Le Dieu à qui j'appartiens m'a dit, dans le cas de Paul, il y a quelque chose après. Tu vas aller, tu vas avoir la vie sauve. Tu vas aller devant l'empereur. Paul était appelé à aller communiquer le message à Rome, aller s'accomplir. C'est comme si Dieu lui disait, Dieu a un plan de l'autre côté de cette pandémie, l'autre côté de cette tempête. Dieu a un plan, Dieu a une destination, puis peut-être même que tu te ressens comme si tu avais fait un naufrage. J'ai un naufrage en ce moment dans mes finances, un naufrage dans mon travail, un naufrage dans tout ce qui se passe en ce moment dans ma vie. Dieu a un plan, Dieu a une destination. Il y a un après. Il y a un après COVID-19 pour toi. Il y a un après COVID-19 pour ta famille, pour tes études. Ta session est interrompue. Qu'est-ce qui va arriver? Il y a un après COVID-19 pour ton travail, pour tes parents, pour tes investissements, pour ton futur. Tous les jours de ma vie sont inscrits dans ton livre, ô Dieu. Voici ce que je choisirai de repasser dans mon cœur. Le prophète Jérémie a dit ceci. Lorsque mes yeux sont sur tous ces troubles qui l'entourent, il dit, c'est comme une absinthe, comme un poison dans mon âme. Mais voici ce que je choisirai de repasser dans mon cœur, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et elles se renouvellent à chaque matin. La révélation que tu appartiens à Dieu, qu'il a un plan pour toi, qu'il y a un après, est plus importante que les raisons. Courage donc, mes amis, a dit Paul. Notre confiance est dans notre Dieu à qui nous appartenons. J'ai confiance que tout se passera comme il me l'a dit. Comprenez bien, si vous décidez de relâcher les pourquoi, Pourquoi ça arrive? Pourquoi? Les révélations que vous allez recevoir seront infiniment plus importantes à la fin des choses que de connaître les raisons. Parce que les pourquoi sont des voleurs. Il y a des questions en ce moment que personne n'a les réponses. Les pourquoi nous volent notre paix. Les pourquoi incessants tourmentent notre âme, nous volent notre joie, notre courage. Les pourquoi nous aveuglent à la fidélité passée de Dieu, aux bénédictions présentes. Il y a tellement de choses bonnes qui arrivent que tu peux en venir à ne plus voir si tu es pris par les pourquoi. Les pourquoi éteignent plein de choses. Éteignent notre vie de prière, éteignent notre louange, éteignent notre confiance, notre perspective d'avenir. Les pourquoi sont les laisses nous tourmenter, nous rendre acerbes, nous rendre remplis de juste silencieux, taciturnes auprès des gens autour de nous. On n'a plus rien de bien à donner. Les pourquoi font de nous des porteurs du virus de peur, du virus de crainte, du virus de la panique. Moi, je veux être un porteur de foi, un porteur de confiance, un porteur d'espoir pour l'avenir. Les pourquoi peuvent vous voler sa présence, vous voler sa présence dans votre vie, vous voler ses promesses, vous voler sa paix. Ne laissez pas les doutes et la douleur des pourquoi venir décimer la paix et les plans de Dieu dans votre vie. De l'autre côté de cette pandémie, il va y avoir un approfondissement de la révélation de Dieu. Je vous promets que si vous vous accrochez à lui, la révélation de Dieu dans votre vie La révélation de comment il est bon, de comment il est fidèle, de comment il vous tient, de comment il fait de grandes choses. Cette révélation-là va être plus importante que les raisons. La première vérité essentielle, c'est que la révélation est plus importante que les raisons. La deuxième, c'est que Malte peut devenir le lieu du miraculeux. Je vais l'expliquer. Ils se sont retrouvés en naufrage. Le bateau a fait naufrage et se sont retrouvés sur l'île de Malte. On retrouve ça dans Actes 28 et le verset 1 et 2. Une fois hors de danger, nous avions appris que notre île s'appelait Malte. Les habitants qui ne parlaient pas le grec nous ont témoigné une bienveillance peu ordinaire. Ils ont allumé un grand feu et nous ont accueillis à sa chaleur, car il s'était mis à pleuvoir et il faisait froid. Lorsqu'on regarde à ce texte-là, ils n'étaient pas en danger immédiat. Ils survivaient à la tempête. Ils survivaient à la tempête, mais ils vivaient l'inconnu. Ils vivaient l'inconnu absolu, comme nous. L'inconnu qui fait peur, l'inconnu qui de l'angoisse. Paul n'a rien fait pour mériter d'être là. Il est sur une île, il se croyait en route vers Rome, il se retrouve sur une île d'inconnus. Une île où il a été traumatisé par le naufrage. Plusieurs années plus tard, lorsque Paul écrira des lettres aux Corinthiens, il mentionnera cet épisode-là de sa vie comme un des plus qu'il a le plus marqué. Je crois vraiment que dans un an 5, 10 et 20, nous allons nous souvenir de cette saison comme une saison, cette période de notre vie, comme une période qui est venue secouer de toutes sortes de choses. Il est bombardé par un langage inconnu, hostile, anxiogène. Vous avez remarqué qu'il dit, on n'est pas capable de... Le langage que j'entendais, je n'étais même pas capable de le comprendre. Ils étaient complètement incapables. Il a perdu tous ses repères. Il n'a pas, et Paul n'a pas de mots. Il n'a pas de mots. Il ne peut pas, il n'y a personne qui peut comprendre ce qu'il vit. Il n'y a pas de mots pour exprimer le sentiment d'isolement qu'il vivait sur l'île de Malte, comme plusieurs d'entre nous aujourd'hui. Alors la question, c'est est-ce que vous retrouvez, lorsqu'on regarde à ça, est-ce que combien d'entre nous se sentent un peu comme Paul sur l'île de Malte? C'est quoi Malte? Malte représente ces moments dans nos vies où nous disons, comment est-ce qu'on s'est retrouvé ici? Comment est-ce que je peux me retrouver ici? Comment? Je ne comprends rien ce qui m'arrive. Je semble tellement m'éloigner de mes buts. Je semble tellement m'éloigner de ce que je voulais. Je semble tellement m'éloigner de où je pensais que j'étais pour être en ce moment, en ce printemps 2020. Mes plans de vie, mes plans de carrière, mes plans d'économie. Malte, c'est le cri silencieux. Je n'ai aucune idée comment m'en sortir. Je ne sais pas comment me sortir d'ici. J'aimerais vous dire qu'après plus de 40 ans à marcher avec Dieu, j'ai commencé à marcher avec Dieu, alors j'ai 17 ans avec un arrière-plan complètement anti-Dieu, absent, ignorant de quoi que ce soit de Dieu, plusieurs générations de dépendance à l'alcool dans ma famille, de violence, de toutes sortes de problèmes que j'avais hérités. J'étais devenu ce que j'avais haï, ce que j'avais subi. J'ai eu cette expérience avec le Seigneur de libération, de transformation. Et en 40 ans, j'ai vécu ces cycles. C'est ça la vie, où il y a cette abondance dans une tempête qui est suivie par une autre. Et celle-là, elle est particulière. Je dois vous avouer qu'après 40 ans à marcher avec Dieu, ce qui arrive en ce moment sur la planète, dans nos vies, à chacun d'entre nous, est quelque chose qui est unique, qui est particulier. Mais je peux vous dire, après 40 ans à marcher avec Dieu, que Malte peut devenir le moment du miracle, que Malte prépare le miraculeux. Accroche-toi à travers ce que nous vivons maintenant. Je pourrais, et tous ceux qui marchent avec Dieu pourraient vous raconter pendant des heures. Et il y a un témoignage sur des siècles de comment ce qu'on avait perçu comme étant les pires périodes, les pires choses, que de l'autre côté de ces tempêtes, il y a toujours un rivage de la bénédiction de Dieu qui nous attend. La première vérité essentielle, c'est que la révélation est plus importante que les raisons. Ne laisse pas les pourquoi te voler ta paix. Malte peut devenir le lieu du miraculeux. La troisième pensée, la troisième vérité essentielle, c'est que le serpent qui doit être secoué précède le surnaturel. Acte 28, les versets 3 à 5. Paul ayant ramassé une brassée de bois sec, il allait la jeter dans le feu quand la chaleur en fit sortir une vipère qui s'est accrochée à sa main. En voyant l'animal suspendu à sa main, les habitants se disaient entre eux, « Pas de doute, cet homme est un criminel. » Si on regarde la suite, « Il a pu échapper à la mer, mais la justice ne l'a pas laissé vivre. » Cependant, Paul avait, d'une secousse, jeté l'animal dans le feu et ne ressentait aucun mal. Une brève récapitulation s'impose. Paul est enchaîné et prisonnier sur un bateau dans une tempête alors qu'il est complètement innocent, qu'il n'a rien fait pour le mériter. Paul, qui souffre injustement à cause de l'entêtement de d'autres à ne pas écouter les conseils. Leur entêtement l'affecte lui. Leur entêtement l'a mis en danger. Paul qui est appelé à prêcher dans un stade de destinée, de promesse, se retrouve isolé sur une île de misère, de dépit et d'attente interminable. Si je peux prendre quelques parallèles modernes, une île de quarantaine, de distanciation sociale, de limitation de nos libertés, de restriction, de frustration. Mais Paul dit, même si c'est tellement en dessous de ce à quoi je suis appelé, il prend un morceau de bois, je vais amener ma portion, je vais amener ma bûche, je vais amener mon morceau au feu, je vais contribuer au feu. Lorsque je dis que c'est tantôt en dessous de son appel, vous avez besoin de comprendre que l'apôtre Paul était, en nos termes modernes, titulaire d'un double doctorat, doctorat en théologie, doctorat en philosophie, parlait 5 ou 6 langues, écrivait les langues de l'époque. C'est celui qui a reçu des révélations théologiques et philosophiques les plus imposante de l'histoire humaine. C'est un érudit. Il est en route pour aller. Il se croyait en route vers les stades de Rome. Il se retrouve sur cette île. Et alors que c'est tellement en dessous de lui, le froid, tout ce qu'il y a autour, il prend le morceau de bois et il vient le déposer dans le feu. Même si c'est tellement en dessous de mon appel, je vais amener mon morceau au feu. Je vais continuer à servir. Question. Comprenez-vous l'importance? Je m'adresse à tous les chrétiens qui regardent cette prédication. Comprenez-vous l'importance de continuer à servir, de contribuer, de donner, de prier, de soutenir, d'aimer, d'aider, sans doute différemment de ce que vous aviez prévu dans cette saison sur l'île de Malte, dans cette saison où vous êtes appelé encore aujourd'hui à simplement apporter votre contribution. J'ai reçu tellement de courriels depuis le début de cette pandémie, depuis les podcasts quotidiens tous les matins et aussi les différentes célébrations. J'en ai reçu un qui m'a tellement fait chaud au cœur. C'est un courriel d'une dame de 73 ans qui m'écrit, qui me dit: Je ne vous connaissais pas, j'habite votre ville, mais je ne vous connaissais pas. Je suis d'un arrière-plan religieux, catholique, non pratiquante depuis plus de 60 ans. Et pourtant, j'ai arrêté quand j'étais adolescente, jamais été à l'église, j'étais contre tout ça. J'ai vécu trop de choses terribles, etc. Et elle dit, j'avais jamais été à votre église, j'ai passé devant plusieurs fois, mais j'avais jamais été à votre église. Mais j'ai commencé à vous suivre dans les messages, j'ai commencé à vous suivre. Je me nourris de vos paroles, je trouve ça tellement magnifique à cause d'un jeune homme. C'est son langage à elle, à cause d'un jeune homme de votre paroisse qui fréquente la paroisse Nouvelle Vie et qui est sur le même étage que moi dans le bloc d'appartement où elle vivait. Et ce jeune homme-là, depuis des années, j'en sais avec elle, lui donne toutes sortes de services, c'est une dame âgée, alors il va déneiger, il va faire toutes sortes de choses. Mais là, depuis la pandémie, a pris une attention particulière, s'est mis à lui écrire, ne peut pas la visiter, mais même lui laisser des choses sur le bord de sa porte, lui laisser des messages, lui laisser de la nourriture qu'il a préparée avec la permission qu'elle a donnée. Elle était très mal prise, avait besoin de quelqu'un pour aller chercher des prescriptions à la pharmacie, faire des courses pour elle. Il s'est mis à faire tout ça. Et parmi la nourriture qu'il lui donnait, à un moment donné, il lui a donné différents coordonnées pour si elle voulait se brancher. Et c'était assez savoureux parce qu'il y a eu un échange de son appareil électronique. Elle ne savait pas trop comment faire fonctionner. Mais elle a réussi à être branchée maintenant sur les messages. Et lorsque j'ai vu ça, j'ai reçu le témoignage qui l'accompagnait. Et j'étais touché parce que le jeune homme qui fait ça, le jeune homme de notre église qui a cette attention pour cette jeune femme-là était à ce printemps, il va y arriver, mais ce printemps était à sa dernière session pour graduer avec une maîtrise des hautes études commerciales. Il y a un poste, un salaire, une carrière qui l'attend maintenant. Il aurait pu très bien être juste rempli de lui-même. Qu'est-ce qui se passe avec moi? Qu'est-ce qui va m'arriver? Mes pré-étudiants, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je vais perdre mon emploi? Est-ce que l'emploi va être encore là? Mais alors qu'il est sur l'île de Malte, alors qu'il est dans tout ça, il apporte son bois, il apporte sa contribution et Dieu s'en sert de manière extraordinaire. Je vous invite, je vous défie de faire de même. La fidélité amène sa faveur. Le sacrifice dans le lieu secret, lorsque personne ne regarde, va apporter une suite surnaturelle, une bénédiction qui est surnaturelle. Regarde bien ce qui se prend en place, c'est assez saisissant. Paul est sur l'île après tout ce que je viens de récapituler et il apporte son morceau au feu. Et peut-être pense-t-il que le pire est derrière nous. Le pire est derrière moi. Qu'est-ce qui peut m'arriver de pire? Je suis sur cette île et puis je suis là et puis je suis dans la tempête. Et lorsqu'il amène avec fidélité son morceau de bois au feu, il y a une vipère qui s'attache à sa main. Paul, il y a une vipère qui vient. L'intensité montante de la chaleur de l'épreuve fait toujours sortir les vipères. Il y a quelque chose. Je pense à un ami, puis je vais m'adresser à lui parce que je sais qu'il va suivre ce message. J'ai un ami pasteur qui était, après plus de 30 ans de ministère fidèle, un homme brillant, qui est en France, un homme de capacité extraordinaire, est en train de, ce printemps, de compléter un des plus grands projets de l'histoire des églises évangéliques en France, un projet hallucinant. Et bien sûr que depuis le début de cette pandémie, l'isolement et tout est arrêté. Il y a ce sentiment de tout ce qui pouvait m'arriver m'est arrivé. Et hier, avant-hier, dans les derniers jours, j'ai appris qu'il avait en plus, en ce moment, il est en isolement parce qu'il a testé positif. Alors, il est infecté avec le COVID. Alors, avec la COVID-19, il va être en traitement, il va être en soins. Mais je peux l'imaginer juste à dire, après tout ça, il y a une vipère qui vient. Il y a une vipère qui s'attache à ma main. Et Paul a prêché le message le plus puissant de tout le Nouveau Testament, sans même prononcer une parole. Il a juste secoué la vipère et continué à faire confiance à Dieu, continué à le servir. Et je veux poser cette question, je veux donner cet avertissement, cet encouragement, cette exhortation et cet avertissement. Est-ce que vous avez laissé, est-ce que tu as laissé une vipère s'attacher à ta main pendant cette saison? La vipère peut être une vipère de colère ou de blâme ou de pourquoi Dieu ou de critique ou d'incrédulité ou d'éloignement, ce qui peut devenir une vipère d'abandon de vos valeurs, de révolte, d'endurcissement, de jalousie, d'envie, de frustration. Il y a des virus, croyez-moi, il y a des virus qui sont de l'âme, il y a des poisons qui sont de l'âme. Nous avons besoin, c'est une vérité essentiel, quel que soit ce que tu traverses en ce moment, ne laisse pas la vipère s'attacher à ta main. Il faut secouer la vipère parce que le serpent précède le surnaturel. La révélation est plus importante que les raisons. Ne laissez pas les pourquoi vous voler votre paix et les promesses de Dieu. Malte peut devenir le lieu du miraculeux. 4 vérités essentielles pour traverser la crise de la COVID-19. Le serpent précède le surnaturel et je termine. Les pires pertes et peines me préparent en fait pour Publius. Dernier texte. Acte 28, des versets 7 à 10. Tout près de là se trouvait un domaine appartenant au premier personnage de l'île, le chef de l'île de Malte à l'époque, nommé Publius. Il nous a accueillis de très, très aimablement et nous a offert l'hospitalité pendant 3 jours. Or, son père était justement cloué au lit par la fièvre et la dysenterie. Paul s'étant rendu à son chevet, a prié en lui imposant les mains. Il a mis sa main simplement et a prié. Il l'a guéri. Et après cela, tous les autres malades de l'île venaient le voir et ils étaient guéris aussi. Cela nous a valu toutes sortes de marques d'honneur et quand est venu le moment de reprendre la mer, on a pourvu à tous les besoins de notre voyage. Le président, le chef, le premier magistrat de l'île les accueille. Personne ne se connaît, mais il fait preuve d'une grande générosité envers eux. Puis il y a quelque chose d'assez touchant, c'est que c'est Luc qui écrit les Actes des Apôtres. Luc est un médecin. Il est un historien, il écrit l'Évangile de Luc comme un théorème d'histoire chronologique de tout ce qui a pris place, comme un témoin oculaire. Et il écrit les Actes, il fait partie du voyage. Et lorsque nous lisons, lorsqu'il l'écrit, c'est 30 ans après les événements. Et 30 ans après les événements de ce séjour sur l'île, de toute cette souffrance qu'ils ont vécue, Luc se souvient. 30 ans plus tard, il est marqué au point qu'il l'écrit. Et l'Esprit de Dieu fait en sorte qu'il l'écrive. Il est marqué par l'hospitalité. 30 ans plus tard, il se rappellera de ses gestes de bonté à son égard alors que tout était en tempête autour. Et laissez-moi vous dire ceci. Les gens vont se souvenir de la gentillesse, de la compassion, de la générosité sans jugement que chaque croyant que l'Église chrétienne va manifester, va donner l'or, va se souvenir de chaque panier de nourriture, va se souvenir de chaque courriel, de chaque appel, de chaque visite, de chaque prière, de chaque moment de compassion. Le père de Publius est mourant et Paul va prier pour lui. C'est assez émouvant. On peut imaginer la scène, ils sont ensemble. Ils ne peuvent même pas communiquer. Alors, c'est par geste, on ne parle pas la même langue. Ils sont dans sa maison et peut-être qu'il voit les gens passer, voit des gens s'ajouter. Et le père est à l'arrière et à travers des gestes, il réussit à comprendre que le monsieur est très malade. Et c'est très, très magnifique, à mon sens, que la main encore marquée par la morsure du serpent devient la main que Dieu utilise de guérison. C'est pas, je veux dire à tous ceux qui nous écoutent pour les premières fois ou les premières semaines et mois, il n'y a pas de guérisseur, il n'y a pas nous qui avons, il n'y a pas rien de spécial dans nos mains. Mais nous devenons tout simplement des conduits de la main de Dieu pour aider. Alors quelqu'un pose la question, Pasteur Claude, est-ce que tu crois vraiment que Dieu peut encore guérir des gens aujourd'hui alors que nous prions que Dieu peut contribuer à leur établissement, contribuer à leur guérison, qu'elle soit physique, qu'elle soit émotionnelle, spirituelle? Absolument. Je crois que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et je crois aussi qu'il n'y a absolument, il y a un verset qui dit, il n'y a en lui, il est, toute bonne chose nous vient, Jacques chapitre 1, toute bonne chose nous vient de notre Père de lumière, en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il y a quelque chose de vraiment magnifique à la pensée que nous, des gens tellement limités, des gens qui vivons nos propres épreuves, des gens avec nos propres cicatrices sur nos mains, pouvons devenir les mains, le cœur de Dieu étendu envers ceux qui ont besoin. Et je ne peux pas laisser ce message se terminer sans faire cet appel. Parce qu'à travers nous, des gens hyper imparfaits, vous comprenez qu'à travers la main blessée de Paul, c'était littéralement la main de Dieu qui s'étendait pour offrir un rétablissement, pour offrir une restauration, pour offrir une guérison à Publius. Eh bien, aujourd'hui, à travers des personnes hyper imparfaites comme nous, qui vivons la crise comme vous, qui la traversons comme vous, avec nos peurs, nos craintes, nos insécurités, nous-mêmes, nos mains à nous aussi sont meurtries, mais nous secouons avec l'aide de Dieu toute vipère, toute chose qui nous empêcherait de simplement être un conduit par lequel, à travers nos mains, la main de Dieu est tendue. Et aujourd'hui, à travers mes mains bien imparfaites, à travers ma voix, à travers ma vie et cet appel et ce message bien par un message parfait dans un messager totalement imparfait, la main de Dieu est tendue vers toi. La main de Jésus se tend vers toi aujourd'hui. Se tend vers toi pour t'offrir non seulement une guérison, on n'est pas dans la guérison magique ou instantanée, mais une guérison du cœur, une guérison de l'âme, un rétablissement. Et oui, j'avais à cœur aujourd'hui de prier pour tous ceux qui ont besoin de guérison, pour ceux qui sont malades, pour ceux qui ont contracté le virus, pour mes amis en ce moment qui sont en isolement, qui sont en traitement, pour des amis qui sont en ce moment dans différentes nations, pour mon ami à Barcelone qui m'a écrit, qui dit, est-ce qu'un jour, qui est lui-même en traitement, son fils est en traitement, et les deux disent, est-ce qu'un jour on va même revenir à une vie normale? Alors, j'avais vraiment à cœur de prier pour lui, pour mon ami à Paris, pour mon ami à Mulhouse, à différents endroits du monde, pour des gens partout ici au Québec en ce moment, des gens même que nous connaissons qui sont en ce moment en traitement. Si vous voulez vous joindre à moi, nous allons prier parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'y a pas d'ombre de variation en lui. Il n'y a ni changement ni ombre de variation. Alors, Seigneur, nos mains meurtries nous-mêmes à travers ce que nous vivons se tendent vers toi. Nous te demandons qu'au-delà des... Seigneur, des distances, nous sommes ensemble, en ce moment, tous ensemble, dans un même lieu, non pas dans un lieu physique, mais dans ta présence, dans ta fidélité. Et nous te demandons qu'alors que notre main se tend vers tous ceux qui sont malades, je te demande, Seigneur, de rétablir. Nous te prions que tu rétablisses ceux qui sont malades, de hâter leur guérison. Nous te prions pour les personnes du bel âge en ce moment qui sont hospitalisées, que tu puisses les visiter, que tu puisses guérir, que dans les jours et semaines et mois qui viennent, des gens en ce moment qui écoutent et regardent ce message disent, lorsque vous avez prié pour moi, lorsque vous avez prié avec nous, il y a quelque chose qui est arrivé dans ma vie. Il y a un rétablissement qui s'est fait. Nous prions, Seigneur, que tu puisses accélérer les recherches des médecins. Nous prions pour tous les centres de recherche partout à travers le Québec, le Canada, à travers le monde en ce moment. Les tests qui sont faits, les tests qui sont prometteurs. En ce moment, les traitements qui semblent tellement prometteurs. Nous te demandons de hâter, Seigneur, d'activer ta guérison dans les nations. Nous te demandons, Seigneur, qu'à travers tout ce que nous traversons, des multitudes à travers nos mains meurtries puissent voir ta main, ton amour, ta fidélité, et puissent mettre leurs mains dans la tienne, dans le nom de Jésus. Seigneur, comme croyants, on s'offre à toi et on te dit, aide-nous. Aide-nous aujourd'hui à marcher avec cette vérité qui va nous libérer. La révélation est plus importante que les raisons. Je ne laisserai pas les pourquoi venir polluer mon âme et m'empêcher de posséder la paix que Dieu a pour moi. Seigneur, je suis à Malte en ce moment, le Malte de « je ne comprends pas ce qui arrive, je ne sais pas comment on va en sortir, mais je déclare par la foi que Malte peut devenir le lieu du miraculeux. Je ne laisserai pas aucun serpent s'attacher à ma main. Je secouais le serpent et, Seigneur, certains des plus grands gestes de foi que je peux faire, plus grand message de foi que je peux donner parfois, c'est je peux prêcher le plus grand message de ma vie en ne disant rien, mais en simplement en secouant le serpent et en te faisant confiance pour ma vie, en m'offrant à toi aujourd'hui. Et je déclare que, bien que je ne vois pas comment, je ne sais pas comment et de quelle façon, mais nos pires pertes, nos pires peines nous préparent pour Publius, pour des gens vers lesquels tu vas nous conduire, que nous allons pouvoir toucher pour toi. Seigneur, nous allons chanter combien Dieu est grand, ta grandeur, ta fidélité. Et alors que nous le chantons, que nous le célébrons ensemble, Seigneur, répands ta grandeur, manifeste ta grandeur dans chacune de nos vies, dans le nom de Jésus. Chantons, louons, adorons ensemble combien Dieu est grand.